Chapitre 13e, le premier bal. Le premier jeudi de décembre, comme elle l'avait dit, la comtesse Koumiassine donna un bal. Mais ce n'était pas à proprement parler ce qu'on appelle un bal dans le grand monde. L'orchestre se composait de 6 musiciens de choix. La salle était joliment garnie de fleurs. Mais on n'avait rien changé aux meubles ni aux tentures. Ces grands changements étaient réservés pour l'année suivante, quand on produirait Zina dans le monde. « Voyez-vous, ma chère amie, disait la comtesse dans l'après-midi à une de ses compagnes d'enfance, ces petites soirées ne seront que des réunions sans cérémonie, quelque chose dans le genre des bals d'enfants. Je n'y inviterai que mes amis intimes avec leur famille et quelques jeunes gens. Il ne s'agit que de marier ma nièce. L'année prochaine, ce sera autre chose. En attendant, Zina prendra l'habitude de recevoir. » Et là-dessus, un sourire fit entendre qu'en effet, ça serait tout autre chose que de marier Vassilissa. La comtesse ne put faire cependant que ces réunions sans cérémonie ne se présentassent quelques jeunes gens des meilleures familles de Pétersbourg, de ceux qui avaient de jeunes frères, de jeunes camarades à peu près de l'âge de Dimitri. Le petit comte invitait avec une grâce parfaite les grandes demoiselles de 18 ans qui se prêtaient en riant à sa fantaisie, tout étonnées de s'amuser bien plus avec ce petit bonhomme qu'avec les jolis officiers de la garde. Parmi les plus brillants de ceux que la comtesse n'invitait qu'à regret, se trouvait un jeune officier de Cosaques, âgé de 24 ans à peine et fort joli garçon. D'ailleurs, joyeux compagnon au régiment, aimé de ses chefs et de ses camarades. « C'est dommage qu'il n'ait pas de titre, disait la comtesse à son ami en regardant tournoyer les couples pendant la valse d'ouverture, au premier jeudi de décembre. « Bonne noblesse de Moscou !» Mais enfin, il n'y a pas à dire, un titre, cela relève un beau nom, pour une femme surtout. C'est dommage, je ne lui vois que ce défaut. Vous le laissez danser avec Zina, ce jeune homme qui n'a pas de titre, dit l'ami d'un ton légèrement railleur. Zina dansera avec tout le monde. C'est le seul moyen d'habituer les jeunes personnes à se tenir à leur place. Et puis il a une excellente conduite, ce jeune homme, vraiment. Oh oui, il a débuté au Caucase, il a la croix de Saint-Georges, on est très content de lui. « Tu m'as bien l'air, pensait l'ami, d'avoir jeté ton dévolu sur celui-là. » Elle se trompait. La comtesse n'avait jeté son dévolu sur personne, mais elle s'arrangeait dès lors pour grouper une élite d'adorateurs auprès de sa fille. Tous ne pouvaient pas être titrés. Il en fallait bien quelques-uns de plus ordinaires. Et puis Maritsky hériterait tôt ou tard d'une grande fortune, et sa présence ne déparait aucun groupe de jeunes élégants. « Eh bien, Lisa, dit Zina en s'approchant de sa cousine entre deux contredanses, t'amuses-tu bien ?» Vassilissa fit un petit geste de tête énergique. Elle était heureuse ce soir-là. Sa tante lui avait fait faire une adorable toilette ruchée, toute blanche, comme un nuage de neige. De plus que Zina, elle avait au front une toute petite couronne de rose mousseuse. Sa robe avait une petite traîne. Elle débutait vraiment dans le monde. Pour une heure, elle oubliait sa position dépendante, sa pauvreté, le destin qui l'attendait. Elle ne voyait rien au-delà des murs tapissés de verdure où brillaient les girandoles chargées de bougies. Elle était reine pour cette heure-là. « Je suis bien contente, va, » continua Zina. « C'est dommage que maman ne veuille pas aussi me faire des robes longues. Je suis pourtant plus grande que toi. Enfin, un peu de patience, cela viendra. » Vassilissa pensa que le moment où sa cousine mettrait des robes longues serait celui où elle-même passerait aux mains d'un époux inconnu. Et loin de lui serrer le cœur, cette pensée lui donna un frisson joyeux. L'époux inconnu, pourquoi ne serait-il pas beau, jeune, noble? Le prince Chourov avait bien pensé à la demander en mariage. Pourquoi ne s'en rencontrera-t-il pas un autre aussi noble, aussi riche, mais plus jeune et plus beau? Elle passait en ce moment devant une glace et elle se regarda. Elle était jolie comme une petite fée. L'orchestre commença une valse. Maritsky s'avança vers les deux jeunes filles, hésitant un peu. Il avait déjà dansé avec Zina. Il s'inclina devant Vassilissa, passa son bras autour de sa taille et l'enleva, blanche et légère comme un duvet de cygne. Zina regarda aller le joli couple. « Qu'il est bien, se dit-elle. Quelle grâce élégante et quel air sérieux. « J'aimerais un mari comme cela. Mais ma mère veut un titre. » Un autre cavalier s'inclina devant elle. Elle se laissa entraîner, et de toute la soirée, n'eut pas une minute pour réfléchir. Le lendemain d'une fête n'est pas toujours fête, dit un proverbe chagrin. Les deux pauvres fillettes en firent l'expérience sans plus tarder. Le vendredi matin, pendant qu'on la coiffait, dès 10 heures, la comtesse les fit appeler dans l'intention de leur inculquer des principes de sagesse mondaine. « Asseyez-vous, » leur dit-elle. Les jeunes filles obéirent et se tinrent bien roides sur leurs chaises. « Vous n'êtes ni l'une ni l'autre exempte de reproche pour votre conduite d'hier soir, » commença la comtesse. « Vous, Zina, vous avez l'air trop évaporé. Vous ne devez pas causer avec les jeunes gens dans l'intervalle des danses. Il suffit que vous les interrogiez pour vous assurer qu'ils ont des dames pour le quadrille suivant. Et vous, ma nièce, vous aviez hier soir l'air de vous amuser beaucoup trop. Comment voulez-vous qu'un homme sérieux vous choisisse pour compagne de sa vie si vous riez et plaisantez tout le temps? N'oubliez pas, mon enfant, que vous n'avez pas de fortune, que la vie pour vous ne sera pas une fête, et tâchez d'apporter, même dans les plaisirs permis que je vous accorde, le sérieux et la dignité calme d'une jeune fille qui se rend compte de sa position. » La comtesse parla longtemps sur ce ton. Lorsqu'elle eut fini, les deux cousines se levèrent, lui baisèrent la main, lui firent une révérence et s'envolèrent dans leur chambre. Là, les gouvernantes allaient les reprendre. Zina fit exprès un long détour dans les salons qui occupaient une partie du premier étage. « Si ce n'est pas à présent que tu dois t'amuser, » dit-elle à sa cousine, « et si tu dois épouser un homme si sérieux, je ne vois pas quand tu t'amuseras. Mais je ne vois pas non plus la nécessité d'épouser un homme si sérieux. Il en est venu hier de bien gentils qui ne sont pas trop sérieux. As-tu remarqué, Maritsky ?»«
Oui, » dit Vassilissa, « il est très bien. »«
Sais-tu, » continua Zina, « je crois que toutes ces institutions de bienfaisance ont tourné l'esprit de maman à l'envers. Elle ne voit plus que du sérieux partout. » « Laissons-la dire, obéissons-lui, et quand il sera question de nous marier, nous n'épouserons que celui qui nous plaira, c'est entendu ?»«
Je te le promets de bon cœur, » dit Vassilissa avec une ombre de sourire.
« Tu ne me trahiras pas, il faut être deux pour être forte. Parole donnée ?»«
Parole donnée. »
Pour rattraper le temps perdu, les deux petites révolutionnaires se mirent à courir la main dans la main. « D'où venez-vous tout essoufflé, Misina ?» dit l'anglaise, scandalisée.
« De chez ma mère, » répliqua Zénaïde, très tranquillement.
Mademoiselle Bochet vit que les deux fillettes avaient été morigénées et n'en fut que plus indulgente.
« Vous avez tort, vous avez tort, » lui dit Miss Junior le soir pendant la récréation. « Ces jeunes filles n'ont pas besoin d'être gâtées. »«
Soit, mais alors soyez sévère avec les deux également, » répliqua la bonne Suissesse, qui ne put se tenir. La gouvernante de Zénaïde la regarda de travers, mais ce fut peine perdue. Quand Mademoiselle Bochet avait mis ses lunettes, elle ne voyait plus que son ouvrage. Les jeudis succédèrent aux jeudis, formant une chaîne ininterrompue de plaisirs. Les petites soirées de la comtesse Koumiassine lui furent rendues par les autres familles. On invita même les deux jeunes filles à quelques grands bals donnés dans l'élite de la noblesse pétersbourgeoise, mais ces dernières invitations furent impitoyablement déclinées. « Je ne produis pas ma fille dans le monde, » répondait la comtesse. « C'est déjà trop qu'on la voit chez moi. »«
Eh bien, amenez-nous votre nièce, » disait-on souvent.
Lisa était fort bonne à voir et sa grâce modeste avait gagné le cœur de quelques bonnes âmes du grand monde.
« Ma nièce, » répétait la comtesse en haussant les épaules, « vous n'y pensez pas. »
Et elle parlait d'autre chose. Un jour, cependant, que son amie d'enfance, Madame Soutsov, lui demandait pour la troisième ou quatrième fois de conduire Lisa à un bal qu'elle donnait la semaine suivante, la comtesse départit de sa réserve et laissa pénétrer ses projets.
« Non, ma chérie, Lisa n'ira pas, parce que j'irai.
Eh bien, vous l'amènerez. » La comtesse fit un signe négatif.
« Lisa n'ira jamais dans le monde en même temps que moi.
Vous n'avez probablement pas remarqué que je ne l'accompagne jamais. »«
Non, »
fit Madame Soutsov très surprise.
« Elle vivra dans un milieu où je ne veux pas me compromettre. »
Une fois la noce faite, je permettrai à ma nièce de me rendre visite. Je serai marraine de son premier enfant si les circonstances s'y prêtent, mais on ne me verra jamais chez elle.
Cette rigueur envers une fillette, qui, je le suppose, ne vous a causé aucun désagrément.
Ce n'est pas de la rigueur, ma chère. J'aime beaucoup Vassilissa. Mais vous connaissez le proverbe, chacun a sa place. Ce que j'en fais, c'est pour son bien.
Il n'y eut pas moyen de la faire sortir de là.
Chapitre 14e. Les souvenirs de jeunesse de Mademoiselle Justine.
La protégée que la comtesse avait mise à la tête de son refuge pour les vieilles femmes était une demoiselle noble, de 35 ans environ, encore franche et assez agréable. Venue en 1856 pour solliciter une pension après la mort de son père, capitaine de l'armée tué à Sébastopol, elle avait été recommandée aux bienfaits de la comtesse par une parente du comte, sa voisine de campagne. « Vous, ma cousine, qui aimez tant à faire le bien, » avait dit malicieusement la provinciale, « tâchez d'obtenir quelque chose pour cette pauvre fille. Elle est très intelligente et peut rendre des services. Je l'aurais volontiers gardée auprès de moi, n'était que je pars pour l'étranger. Ma santé réclame les eaux. » Ce que la ville commère ne disait pas, c'est qu'elle trouvait Justine Adamovna trop intelligente et qu'elle l'aimerait bien partout, hormis dans sa propre maison. La comtesse, très bonne femme quand il ne s'agissait point de ses principes, avait commencé par donner à la demoiselle pauvre la table et le logement, et comme Justine après tout était noble, elle l'avait admise à sa propre table. La nouvelle venue, qui avait aussi des principes, chercha à devenir utile et elle se rendit promptement nécessaire. Aussi bientôt put-elle entrer chez la comtesse sans avoir été appelée, mais jamais sans se faire annoncer. L'étiquette sur ce point restait inflexible. C'était quelque chose que de diriger le refuge de la comtesse Koumiassine. Sans doute, en peu d'années, elle avait fait un chemin considérable, et le plus difficile était accompli. Elle pouvait espérer de devenir directrice de quelque établissement de charité sous le patronage d'une grande duchesse. Elle serait peut-être appelée à remplir des fonctions à la cour. Mais tout cela était bien lointain. Elle eût voulu trouver quelques ressources plus à portée de sa main, quelque chose qui lui a fermé le pied dans l'étrier, quelque chose en un mot de moins aléatoire que le caprice protecteur d'une grande dame ou d'une princesse du sang. Un jour d'hiver, un peu avant Noël, elle trottinait le long des galeries à arcades du Gostinoï Dvor, tournant et retournant son avenir dans sa pensée et s'occupant en même temps des emplettes destinées aux étrennes des protégés de la comtesse, depuis les bambins à mamelles jusqu'aux vieillards décrépits, car la charité vraiment prodigue de la grande dame n'oubliait personne, elle fut étonnée de s'entendre appeler par son nom. « Justine Adamovna !» dit une voix masculine. Elle leva les yeux, pâlit, ouvrit la bouche, la referma, et se mit un peu de côté pour laisser passer le torrent des acheteurs. « Comment, vous ?» dit-elle enfin d'une voix singulièrement brisée. « Oui, moi, et que faites-vous ici ?»« J'achète des étrennes pour les pauvres, » dit Justine, qui reprenait peu à peu son sang-froid. Pendant les quelques secondes qui venaient de s'écouler, la pauvre protégée avait vu passer devant ses yeux le rêve de sa jeunesse. Elle habitait une pauvre maison de bois à sa campagne. Sa mère n'avait qu'une servante. Son père était à l'armée et ne venait que tous les 5 ou 6 ans. Une ou deux familles de paysans, avec un petit lopin de terre labourable, formaient tout leur fief. Mais à quelque distance de la maison, un taillis de bouleaux se dressait, semblable à un bouquet de plumes ondoyantes. Ce taillis était toute la joie des pauvres propriétaires. « Notre bois, » disait-il avec orgueil. Justine avait passé son enfance dans un de ces établissements que l'État entretient en province pour l'éducation des jeunes filles de noblesse pauvre, économe institut. Elle revint à la maison paternelle avec de beaux diplômes, des récompenses méritées et des ambitions sans bornes. La maison de bois lui parut laide, la vieille servante ignoble, sa mère pesante et vieille. Le petit taillis de bouleau qui avait grandi en même temps qu'elle était l'oasis de ce désert. Elle y passa bientôt le plus clair de ses journées. Dans le voisinage vivait un petit gentilhomme campagnard, bœuf, fort occupé de ses chevaux, au nombre de 3, et de sa meute, composée de 6 chiens. Il passait sa vie à la chasse. Son fils, qui le gênait parce qu'il lui prenait ses chevaux pour courir, avait été placé par lui dans un établissement public afin d'y faire son éducation. Le sort voulut que le jeune Nicolas Tchoudessov revint au bercail, lettré et barbu, 1 an avant le retour de Justine chez sa mère. Le bois de bouleau était presque sur la limite des 2 propriétés. Nicolas, excellent tireur d'instinct, aimait la chasse. Il partait avec son fusil et rentrait sans gibier. Mais qu'est-ce que cela prouve? Toujours est-il que certains jours, M. Tchoudessov, revenant à cheval d'une course dans les environs, eut l'idée de traverser le taillis et à son inexprimable horreur, il aperçut à travers les branches son fils étendu dans l'air d'une clairière au pied d'une jolie personne qu'il reconnut pour Justine Adamovna. Les deux jeunes gens paraissaient fort tranquilles et accoutumés à se trouver ensemble. L'herbe fine et drue amortissait le bruit des sabots de son cheval. Les jeunes gens avaient à peine daigné tourner la tête, croyant avoir affaire à un paysan. Le vieux Tchoudessov, qui n'était pas commode, ne dit rien et retourna chez lui en mordant sa moustache grise. À l'heure du thé, son fils apparut comme de coutume, le fusil désarmé, la gypsière vide.
« Tu n'as rien tué aujourd'hui ?» lui demanda le père.
« Non, mon père, rien du tout.
Tu n'as pas de chance, hein ?»
Le jeune homme, alors âgé de 19 ans, regarda son père avec quelque surprise et répondit
« Non, je n'ai pas de chance, c'est vrai, mais je ne me donne guère de peine. »
Le vieux Tchoudessov sauta sur sa canne, qu'il guignait depuis un moment dans le coin habituel, et appliqua à son héritier une volée fort satisfaisante. Quand il jugea que la correction porterait fruit, il déposa sa canne et dit à son fils
« Ça, c'est pour te faire passer les idées de mariage. Si jamais tu t'avises de venir me demander ma bénédiction pour épouser cette mamselle qui te tenait compagnie dans le bois, je te déshérite. »
Nicolas, furieux et rossé, regardait son père de travers.
« Oui, tu crois que je ne peux pas te déshériter, n'est-ce pas ?
Je vendrai mon bien et je le boirai jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier copec, tu m'entends ?
J'ai compris, mon père, mais pourquoi ?
Parce que je ne veux pas d'une belle fille qui court les bois avec un garçon.
Suppose que ce ne soit pas avec toi qu'elle était assise dans le bois, hein ?
Mais, mon père, puisque c'est avec moi ?
Eh bien, puisque c'était toi, tant mieux pour toi, mais je t'ai dit mon dernier mot. »
Nicolas fit ses réflexions et retourna au bois comme d'habitude. L'automne s'avançait, les pluies devenaient fréquentes, et le jeune homme n'aimait pas la pluie, de sorte qu'il ne venait pas avec une exactitude militaire.
« Eh bien, lui dit un jour Justine, quand parlerez-vous à votre père ?
Je lui ai parlé. »
répondit Nicolas qui se souvint des coups de canne.
« Eh bien ? Fit la jeune fille, pâle d'angoisse.
« Il ne veut pas et il ne veut pas. C'est son dernier mot. »
En disant ces paroles, Nicolas baissa la tête, car il sentait bien qu'il aurait peut-être pu insister davantage.
« Ah, il ne veut pas, » répéta lentement la jeune fille.
« Eh bien, adieu, monsieur Tchoudessov. »
Elle s'en allait, pâle, blessée au cœur. Le jeune homme la rattrapa, la saisit dans ses bras, lui dit tout ce qu'il put trouver de mieux, et finit par la consoler un peu. À partir de ce jour, elle le considéra comme un étranger. Dans son plaidoyer, cependant, il avait si bien su mêler la fiction à la réalité, il avait parlé des coups de canne avec tant d'éloquence, que Justine, sans se trouver convaincue, cessa de lui en vouloir. D'ailleurs, à 17 ans, on est crédule. Les deux jeunes gens se séparèrent donc sans colère et sans rancune. Quelque temps après, Nicolas partit pour chercher fortune à Pétersbourg. À dire vrai, Justine n'avait pas eu le cœur pris. Cette petite nature sèche se prêtait mal au dévouement sublime et absurde de l'amour. Mais une fois seule dans la monotonie de sa vie campagnarde, elle arriva à se faire une sorte de héros de Tchoudessov. Elle ne vit plus en lui qu'une victime de la cruauté paternelle et ne se souvint plus que des coups de canne. Le petit bois fut pour elle une sorte de pèlerinage qu'elle accomplissait de temps en temps pour chercher l'ombre de sa jeunesse. Et voilà que cette jeunesse évanouie, elle venait de la voir apparaître dans les galeries du Gostinoï Dvor sous la forme de Nicolas Tchoudessov. Il avait changé depuis 18 ans. De longs favoris bien soignés remplaçaient sa jeune barbe soyeuse. Son visage portait les traces du temps, eût dit un poète. C'est-à-dire que de petites rides fines indiquaient non les excès, mais la méditation soucieuse d'un homme qui voudrait parvenir. À cela près, toujours joli garçon à 37 ans. Sa mise, autant que la longue pelisse la laissait voir, était sévère. Ses manchettes de toile fine étaient attachées par de jolis boutons d'or mat, d'un goût sérieux. Le chapeau de soie était neuf, lustré, irréprochable. La main blanche et soignée. Évidemment, Nicolas Tchoudessov vivait dans un milieu où les bonnes manières faisaient partie des aptitudes. « Que faites-vous à Pétersbourg ? » demanda Justine lorsqu'elle eut chassé le trouble de ses esprits. « Je suis employé au Sénat. D'ici peu, j'espère avoir de l'avancement. »«
Ah, Justine Adamovna, quelle rencontre ! Qu'il y a longtemps !»« mais venez par ici, on ne peut pas causer. »
Ils s'écartèrent de la foule et montèrent au premier étage, où les galeries, presque entièrement occupées par les réserves des magasins du rez-de-chaussée, sont habituellement désertes. En quelques mots, Justine raconta son passé et sa situation actuelle dans la maison de la comtesse Koumiassine. « A-t-elle des enfants ?» demanda Tchoudessov sans attacher grande importance à sa question. « Elle a une fille, un fils et une fille adoptive. Des bambins ? Non. Sa fille aura bientôt 16 ans. Sa nièce en a 17. Elle cherche à la marier. » Un éclair d'inspiration montra à Tchoudessov le parti qu'il pouvait tirer de cette rencontre. « Elle est riche, cette nièce à marier ? » demanda-t-il négligemment. « Non. La comtesse lui donne 10 000 roubles et un trousseau, mais il y aura la protection. » Un silence se fit. « Vous n'êtes pas marié ? » demanda Justine, non sans quelque trouble. « Pas encore, » répondit Tchoudessov. « Êtes-vous promis ? » ?»«
Non, »
répondit le compère, qui ne voulait rien compromettre. Justine s'arrêta et le regarda en face avec des yeux brillants qui lui firent peur. Un moment, il eut l'idée de prendre la fuite. « Je vous ai fait du tort autrefois. Vous avez souffert pour moi. » Il la regarda, assez étonné, car au fond, sauf les coups de canne, ce n'était pas lui qui avait souffert. «
Je puis vous donner une bonne revanche, » continua-t-elle. « Je vous veux du bien, croyez-le. Je n'ai oublié que ce qu'il fallait oublier. Faites de même. Voulez-vous épouser la nièce de la comtesse ?»
Tchoudessov croyait rêver, mais c'était un homme sérieux. Il prit tout de suite le côté pratique de la proposition. « Est-ce un mariage convenable sous tous les rapports ? » dit-il d'un air grave. « Est-ce que je vous en parlerai sans cela ? » répondit la protégée en haussant les épaules.
« Vous me devrez votre bonheur. Cette pensée m'est très agréable. Et puis moi aussi je suis ambitieuse. Nous montrons ensemble. Dites-moi, avez-vous servi à l'armée ?»«
Oui, » répondit l'employé, « 2 ans seulement. Il n'y avait pas d'avancement, j'ai préféré le service civil.
Pourquoi cette question ?»«
Parce que la comtesse aime assez les militaires, ou du moins ceux qui l'ont été. Elle dit que cela dégourdit un homme. »
« Je lui parlerai de mes campagnes, si cela peut lui faire plaisir, » dit Tchoudessov avec un sourire aimable, extrêmement faux.
« Et puis on veut des principes chez nous. »« Cela va de soi, » répondit l'employé en s'inclinant.
« Qui est-ce qui va vous présenter ?» demanda Justine inquiète. « Il faut quelqu'un, une dame, une personne sérieuse. On prendra des renseignements sur vous. »«
Je suis prêt, ma vie est sans reproche, » dit Tchoudessov en se redressant.
Il se troubla cependant un peu en achevant le dernier mot, car il se souvenait du taillis de boulot.
Mais il avait une alliée là où il eût pu trouver une ennemie. Les deux complices passèrent en revue les maisons où l'on pouvait trouver un intermédiaire.
« J'en trouverai un, soyez-en sûr, » dit Tchoudessov en tendant la main à Justine, « et je vous l'écrirai par la poste. »«
Non, » dit la protégée, « n'écrivez pas, il ne faut jamais écrire. »
Tchoudessov s'inclina devant cette sagesse supérieure. « Et dites-moi, » fit-il en se rapprochant, « pourquoi la nièce de la comtesse et pas sa fille ?»
Justine secoua négativement la tête.
« La jeune comtesse ne se mariera qu'après sa cousine. Et cela n'est pas pour vous, mon ami, 1 million de dot. »«
Bien, bien, » fit Tchoudessov d'un air dégagé. « Ce que j'en ai dit, c'était pour me renseigner.
Alors je ne vous reverrai pas ?»«
Non, faites-vous présenter. Je tâcherai de vous rencontrer par hasard dans la maison et je dirai ce que vous êtes. »
Un voisin de campagne. Mais présentez-vous hardiment comme prétendant.
Le premier qui viendra aura toutes les chances. Ne perdez pas de temps.
C'est entendu, merci.
Il se serra la main et se tournèrent le dos. Tchoudessov s'en alla de son pied léger à ses affaires, et Justine continua à acheter des bas de laine et des livres de piété.
Chapitre 15e. Dimitri découpe des maris pour toutes les demoiselles. Le soir même, après le dîner, quand la comtesse fut rentrée dans son boudoir pendant la causerie à bâtons rompus qui rapprochait tous les autres pour un moment, Justine se glissa vers les deux cousines sous prétexte de leur parler des emplettes qu'elle avait faites dans la journée, en réalité pour voir Vasilissa de plus près et la faire parler s'il se pouvait. Miss Junior engagea la protégée à passer dans la salle d'études où les enfants se réunissaient pour la soirée, et les 5 femmes se trouvèrent assises autour de la table, examinant les achats de charité et causant amicalement. C'était la première fois. Jusqu'à ce jour, Justine n'était entrée dans cette pièce que pour porter quelques messages de la comtesse. Mademoiselle Beauchet n'éprouvait pas grande sympathie pour cette nouvelle recrue. Ses yeux honnêtes avaient souvent cherché vainement le regard de cette demoiselle peu communicative. En revanche, Miss Junior, gloutonne comme un brochet de compliments et d'attentions, se laissait prendre à merveille aux politesses, aux prévenances de l'astucieuse protégée. Les deux jeunes filles n'y entendaient pas malice et s'amusaient à étirer sur la table les petits bas et les brassières de laine. « Ils auront bien chaud là-dedans, » disait Zina en passant ses doigts dans les manches des brassières et en leur faisant faire le polichinelle. Vasilissa écoutait d'une oreille distraite les récits de la protégée qui s'était assise à côté d'elle. « Et vous, mesdemoiselles, » dit celle-ci en interrompant le fil d'une histoire touchante qu'on n'écoutait pas, « qu'est-ce que vous allez me donner pour mes pauvres vieilles ?» Zina fouilla dans sa poche, ramena son porte-monnaie, l'ouvrit tout grand, le renversa et l'appliqua brusquement sur la table. Il en sortit une pièce en cuivre de 5 copecs, une pièce de 10 copecs en argent et une autre de 20. « Tout ça, » dit-elle en riant aux éclats, « voilà tout ce que je possède. Je vous le donne de grand cœur, » continua-t-elle en poussant cette monnaie vers Justine. « Jusqu'à ce que ma mère me donne mes appointements, au premier du mois, je n'ai plus rien, rien, rien. » La petite fille fit tournoyer 2 ou 3 fois son porte-monnaie en l'air, puis le referma et le mit dans sa poche avec le même sérieux que s'il eût contenu une fortune. « Et vous, mademoiselle Vasilissa, » dit la protégée d'un air patelin, « ne me ferez-vous pas aussi l'aumône pour mes pauvres ?»« Je n'ai rien, » murmura honteusement l'orpheline. « Comment ? Tu n'as rien dépensé ce mois-ci. Mesdemoiselles, je vous dénonce ma cousine. Lissa est avare, elle a un magot, je suis sûr qu'elle a un magot. Dis-moi où tu le caches, que je t'emprunte de l'argent. J'ai horriblement besoin d'argent. » « Je n'ai rien, » répéta Vasilissa en regardant Zina, les yeux pleins de larmes. « Qu'as-tu fait de ton mois ? Maman te donne un mois, tous les mois, qu'en as-tu fait ?» Et Zina se croisa les bras d'un air délibéré, rejetant la tête en arrière avec la gravité d'un juge. « Tu sais bien, Zina, que maman est venue me voir dimanche. Je lui ai tout donné pour qu'elle l'envoie nos pauvres à la campagne. »« Ah, vous avez aussi une campagne, mademoiselle Vasilissa ?» dit la protégée, pendant que Zina demandait pardon à sa cousine en mettant la ponctuation avec des baisers. « Nous avons 15 paysans, » dit la jeune fille. « Ils sont très pauvres. »« Cela fait toujours 15 paysans, » pensa la protégée. « Je n'en ai pas tant que cela, et les miens ne sont pas plus riches. » À partir de ce jour, elle prit l'habitude de venir tous les jours après le dîner faire une visite dans la salle d'études. La visite, de 10 minutes d'abord, se prolongea peu à peu, si bien qu'elle finit par durer toute la soirée. Mademoiselle Beauchet n'était pas contente, mais la comtesse, ayant approuvé la présence de Justine presque sous sa main, à l'heure où elle prenait ses arrangements pour la journée suivante, l'honnête fille garda le silence. Depuis quelque temps déjà, elle sentait sa position craquer sous ses pieds. On faisait allusion autour d'elle au prochain mariage de son élève, mais elle s'était attachée à l'orpheline et, faisant bon marché de son amour-propre, elle s'était décidée à rester tant qu'on ne la congédierait pas. Plus d'une fois, elle eut envie de dire à Vasilissa « Méfiez-vous !» Mais elle se dit qu'elle n'avait aucun droit de le faire et se borna à protéger le plus souvent possible la jeune fille par sa présence. Les choses allaient ainsi depuis 2 ou 3 semaines. Le jour de l'an avait apporté dans la maison son contingent de cadeaux et de rhumes de cerveau. Vasilissa avait eu une parure de corail, Zina un bracelet de perles, la comtesse une grippe et Dimitri un cheval mécanique lorsqu'un soir, Madame Soutsov se fit annoncer chez son ami. Après les préliminaires d'usage, « J'ai trouvé un fiancé pour votre nièce, » dit-elle à la comtesse. « Ah, vraiment, fort bien. Je vous remercie. On m'en a déjà proposé 2 ou 3, mais je ne suis pas entièrement satisfaite. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur ?»« Un homme comme il faut, d'abord, à ce qu'il paraît, car je dois vous avouer que je ne l'ai jamais vu. C'est Madame R. qui m'en a parlé. » Il a vu Lissa, paraît-il, et il a été très frappé de sa bonne tenue, de sa modestie. Où a-t-il pu la voir ? C'est ce que j'ignore. Dans la rue, peut-être, ou à l'église ? Ah oui, à l'église, c'est possible. Son nom ? Tchoudessov, Nicolas. C'est un nom de clergé, cela. Ancienne famille de prêtres, probablement. Peut-être anobli par les armes. Oui, cela me conviendrait assez. Quelle position ? Employé au Sénat. Appointement de 2 à 3 000 roubles, susceptible d'augmentation. fortune personnelle, peu de choses. Un petit bien que lui a laissé son père, environ 1500 roubles de revenus annuels. C'est peu, mais c'est suffisant. Et la personne ?
Il est très bien, dit-on. 35 ou 36 ans. Des principes religieux, une excellente conduite. Pas de jeu, pas d'excès de table, pas de liaison.
C'est une perle, alors, dit la comtesse en riant.
Et qu'est-ce qu'on paye pour le voir ?
Si vous consentez à le recevoir, je vous l'amènerai.
La comtesse réfléchit un peu.
Oui, le carnaval dans un mois, puis le grand carême.
On pourra la marier à Pâques.
Amenez-le-moi.
Mais vous savez que je ne m'engage à rien. Il faut que je m'assure.
On peut prendre des renseignements ?
Tant que vous voudrez.
Eh bien, amenez-le vendredi soir. Je serai seul. Nous le ferons causer.
Je vous avoue que jusqu'à présent, aucun de ceux qu'on m'a proposés n'avait réuni tant d'avantages.
Mais il faut que je le voie.
Le vendredi, vers 8 heures, un valet de pied annonça
« Madame Soutsov, Monsieur Tchoudessov. »
Justine, qui entendit ces noms par la porte ouverte de la salle de classe, réprima un imperceptible tressaillement.
« Il a bien choisi sa protection, se dit-elle avec orgueil. C'est un homme très fort. »
La robe de soie de la visiteuse fit frou-frou sur le tapis. Un pas masculin s'arrêta sur le seuil. Puis la voix de la comtesse proféra quelques paroles banales, et le valet de pied, se retirant, ferma sur le trio les portes du boudoir, toujours ouvertes.
« Oh oh, conciliabule secret !» dit Dimitri, l'enfant terrible, qui découpait des chevaux de carton.
« Cas punissable par les lois, plus ou moins, selon la gravité des circonstances. C'est mon précepteur qui me l'a appris ce matin, Miss Junior.
Vous n'avez pas besoin de me faire des yeux comme cela, mademoiselle Justine. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. »
Justine, indifférente, continua à coudre. Elle ne travaillait jamais qu'à des habits pour les pauvres. Miss Junior entama avec Dimitri une controverse aiguë, où, malgré le soin qu'elle avait de parler anglais, l'enfant lui répondait imperturbablement en allemand, ce qui n'élucidait pas la question. Mademoiselle Beauchet et Vasilissa se regardèrent effarées. Cette visite, à une heure inusitée, cette porte, que de mémoire d'enfant on avait vue fermée, Zina leva la tête et surprit ce regard.
C'est, commença l'étourdie. Elle s'arrêta sérieuse tout à coup.
Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Zénaïde ? Demanda la protégée de sa voix douce.
Dimitri, qui avait saisi le profil de Tchoudessov au moment où il passait devant la porte, déposa sur la table une silhouette que, pendant sa querelle avec Miss Junior, il avait soigneusement découpée dans du papier. La silhouette représentait assez bien le nez aquilin, les favoris en pointe et le chapeau que le visiteur tenait à la main avec grâce.
« C'est le mari de ma cousine Vasilissa, » dit-il en contemplant son œuvre, la tête un peu de côté, plein de la satisfaction de l'artiste convaincu.
« Cet affreux bonhomme !» s'écria Zina rouge de colère en saisissant le corps du délit.
« N'as-tu pas honte ?»«
D'abord, ce n'est pas un bonhomme, c'est un monsieur très comme il faut. »
Dimitri fit le geste d'un homme bien élevé qui ôte son chapeau pour le garder à la main. « Et puis il n'est pas affreux, il est très bien fait, au contraire. »
Et puis ce n'est pas l'homme en papier qui est le mari de ma cousine, c'est...
« Qu'est-ce que c'est, mon jeune ami ?»
demanda Justine, toujours douce et aimable.
« C'est... Qu'est-ce que ça vous fait, mademoiselle Justine ? Tenez, votre mari à vous, je vais vous le donner, ça ne sera pas long. »
Maniant les ciseaux avec une dextérité sans égale, il déposa presque instantanément sur l'ouvrage de Justine la silhouette du diable avec des cornes gigantesques et une queue de sapajou.
Le rire et les reproches éclatèrent à la fois autour de la table. L'indignation de Miss Junior ne connaissait plus de bornes.
« Vous êtes jalouse, Miss Junior ?» s'écria Dimitri, devenu nerveux et surexcité.
« Il vous faut aussi un mari. Attendez, le voilà. »
Évitant habilement les mains qui essayaient de lui ôter les ciseaux, mais qui n'osaient l'attaquer brusquement de peur de le blesser, il découpa la caricature d'un ministre anglican avec ses longues basques, son chapeau plat et sa Bible sous le bras.
Miss Junior, bleue de colère, allait certainement faire quelque esclandre, lorsque mademoiselle Beauchet, pour opérer une diversion, prit l'enfant sur ses genoux.
« Et mon mari à moi, dit-elle, est-ce que vous ne le ferez pas ?»
Dimitri la regardait en souriant. Son petit visage changea tout à coup d'expression. Il fondit en larmes et se cacha dans le cou de la brave fille.
« Elles me détestent, toutes les deux, » murmura-t-il en montrant le poing à l'anglaise et à Justine. « Vous, vous m'aimez, et je vous aime. »
Les jeunes filles s'empressèrent autour de lui et arrêtèrent ses larmes, non sans quelque peine.
Puis vint la grande question de lui faire demander pardon à celle qui l'avait offensée. Ce ne fut point aisé, mais les deux victimes, effrayées du résultat que pouvait avoir cette scène si la comtesse en avait connaissance, ne se montrèrent pas exigeantes. Dimitri se réinstalla sur sa chaise, et la paix était faite quand, 9 heures sonnant, M. Wartel vint réclamer son élève et l'emmena. « Cet enfant est méchant, » dit Miss Junior, quand il fut hors de la portée de la voix. « Non, je ne crois pas, mademoiselle, » dit la Suissesse, « mais il est trop nerveux. » Justine lui jeta un de ses regards obliques qui lui était particulier. Mademoiselle Bochet le soutint froidement. « C'est égal, » se dit-elle, « la branche fait plus que de plier sous moi. Dans quelques semaines, dans 8 jours peut-être, je ne serai plus ici, pauvres enfants. » La porte du boudoir se rouvrit. Le froufrou de deux robes s'engouffra dans le salon qui conduisait à la salle d'études, et la comtesse entra, accompagnée de ses visiteurs. Au premier bruit, Zina avait sauté sur les bonshommes et en avait fait une pelote prestement jetée sous la table. Les visiteurs s'avancèrent. Une grande lampe à abat-jour, suspendue au plafond, éclairait les visages. Tout le monde se leva. « Ma fille Zénaïde, » dit la comtesse en présentant son hôte, « Dimitri est déjà couché ?»«
Oui, maman. »
« Ma nièce, Vassilissa Gorov, » continua la comtesse. Elle s'arrêta un peu. Miss Junior et Mademoiselle Bochet, qui ont la charge de l'éducation de nos jeunes filles. Mademoiselle Justine. Justine leva les yeux et sourit. « J'ai déjà le plaisir de connaître monsieur, » dit-elle. « Monsieur est un voisin de campagne de ma mère. »
« Ah, vous vous connaissez, » dit la comtesse, enchantée de pouvoir se procurer des renseignements sans se déranger.
« J'en suis charmée. Vous referez connaissance chez moi, je l'espère. »
Tchoudessov s'inclina.
« Je serais trop heureux, » dit-il, « que votre Excellence veuille bien m'autoriser à revenir lui présenter mes hommages. »
Son regard s'arrêta sur Vassilissa, ainsi qu'aux personnes qui ont le bonheur de vous appartenir.
Il salua, prêt à se retirer. « Restez, ma chère, je vous en prie, » dit la comtesse à Madame Soutsov. « Je suis chez moi le soir généralement, monsieur, » dit-elle à Tchoudessov. Celui-ci salua encore une fois et sortit. Les deux dames causèrent un moment de choses indifférentes, puis s'en retournèrent dans le boudoir.
« Il est très bien, » dit la comtesse. « Demain, je me ferai donner des renseignements par Justine. Est-ce une chance heureuse qu'elle le connaisse ?»«
Oui, en vérité, qui aurait deviné cela ?» répondit la bonne âme sans méfiance. Pendant ce temps, Zina réfléchissait. Après 5 minutes de silence,
« Il n'est pas mal, ce monsieur, » dit-elle sournoisement.
« Oui, » répondit Vassilissa d'un ton décidé, « mais il salue trop bas. »
Chapitre 16e. Tchoudessov fait la roue. Le lendemain, dès 9 heures, la comtesse, tout en faisant sa toilette, manda Justine auprès d'elle. « Y a-t-il longtemps, ma bonne, lui dit-elle, que vous connaissez M. Tchoudessov, qui est venu hier soir chez moi ?»«
Oui, comtesse. Je l'ai connu lorsque je sortais de l'Institut, il y a environ 16 ans. C'était un voisin de ma mère.
A-t-il de la famille là-bas ?
Je ne saurais vous dire. Je crois cependant que son père est mort depuis que j'ai quitté mon pauvre petit patrimoine. »
« Quel homme était son père ? Interrompit la comtesse, peu désireuse d'entendre les doléances de Justine.
C'était, autant que je puis m'en souvenir, un homme rude et brutal. Son fils lui était extrêmement soumis et passait pour un bon garçon.
« Il est plus jeune que vous ?» demanda la comtesse.
« Je ne crois pas, » répondit Justine, un peu piquée.
Elle avait diminué 2 ans de son âge pour faire plus d'honneur à Tchoudessov, et voilà qu'à présent on la croyait plus vieille que cet homme de 37 ans. Pendant un moment, elle eut positivement envie de bouder, puis elle revint à de meilleurs sentiments.
« C'est tout ce que vous savez à son sujet ?» demanda la comtesse après un moment de silence.
« Mais oui, comtesse. Il y a longtemps que je l'ai perdu de vue.
J'étais bien surprise de le voir entrer avec vous dans la chambre de ces demoiselles. »
Justine prononça ces derniers mots lentement, avec une sorte d'hésitation si bien jouée, que la comtesse s'y laissa prendre et la regarda d'un air de condescendance, avec un sourire de bonne humeur très gracieux.
« Vous êtes intelligente, Justine Adamovna, » dit-elle. « J'aurai peut-être prochainement besoin de vous pour autre chose que pour surveiller ma maison de refuge. Vous étiez hier au soir chez ces demoiselles quand mes visiteurs sont venus ?»«
Oui, comtesse. Mon fils était présent, je crois. » Sur un signe affirmatif de Justine, la comtesse continua. « Monsieur Wartel m'a dit ce matin que Dimitri avait eu quelque peine à s'endormir et qu'il avait rêvé tout haut. Ne s'est-il rien passé d'extraordinaire pendant la soirée ?» Justine Adamovna garda un silence significatif et baissa les yeux d'un air embarrassé. « Parlez, je le désire, » dit la comtesse, accoutumée à agir en souveraine. Le jeune comte s'est permis quelques plaisanteries un peu vives à l'égard de Miss Junior. La rusée protégée se garda bien de parler de son propre grief. Et Mademoiselle Beauchet, ayant pris son parti, il s'est un peu monté la tête. Cependant, conseillé par Mademoiselle Zénaïde, il a fait des excuses et tout est rentré dans l'ordre. Il ne s'est rien passé de plus, Madame la Comtesse. Enfin, murmura la comtesse entre ses dents d'un air décidé, cela ne durera plus bien longtemps. Je vous en supplie, Madame la Comtesse, s'écria la protégée d'un ton plein d'angoisse. « Ne laissez soupçonner à personne que je vous ai parlé de ceci. Je l'ai fait par dévouement pour vous et par soumission à vos ordres, car je ne sais comment il se fait que je ne puisse rien garder sur ma conscience lorsque vous me commandez de parler. » Le sourire bienveillant de la comtesse annonça à Justine qu'elle avait chatouillé le point sensible de son amour-propre, la soif de domination. « Soyez tranquille, » dit-elle en étendant la main d'un geste protecteur, plein de noblesse et de grâce. J'espère d'ailleurs que personne, chez moi, n'oserait vous molester pour vous obéir à mes injonctions. Avez-vous quelques ordres à me communiquer relativement au refuge ? Demanda Justine, après avoir baisé pieusement la main protectrice. Au refuge, non, mais j'ai diverses courses que je vous prierai de faire pour moi. La comtesse entra aussitôt dans le détail d'une foule d'œuvres pieuses. Jamais on n'a connu tout le bien que cette femme orgueilleuse de son nom et de son rang avait fait parmi les pauvres de toutes les classes. La protégée la quitta aussitôt pour se mettre en campagne. Elle prit un traîneau de louage pour la porter d'un bout à l'autre de Pétersbourg, et tout en débattant le prix avec le cocher, « Bientôt, se dit-elle, je ferai mes visites de charité dans une bonne voiture et non plus dans ce piteux véhicule. » Et elle partit, pleine de rêves d'avenir. Depuis la veille, Zina cherchait le moyen de causer avec sa cousine et ne pouvait la trouver. Au moment où elle venait de communiquer avec elle, avant la promenade de l'après-midi, sa mère les fit appeler toutes deux. Se serrant la main, elles entrèrent dans le boudoir où la comtesse, tout à fait habillée, les attendait, assise dans son fauteuil. « Dimitri a-t-il été sage hier ?» demanda la mère aussitôt après les formalités usuelles. « Oui, maman, » répondit Zina qui sentit l'odeur de la poudre. « Un peu nerveux seulement. »« Ah, des nerfs, très bien. Et la cause de ces nerfs ?»« Miss Junior l'a contrarié. Ils se sont un peu querellés, mais mon frère lui a demandé pardon bien gentiment. »« Je n'aime pas ces scènes continuelles. Si votre frère ne se sentait pas soutenu, il ne se permettrait pas ces scènes inconvenantes. »« Nous ne le soutenons pas, maman, » dit vivement Zina. « N'est-ce pas, Lisa, que nous lui avons dit de demander pardon ? D'ailleurs, il n'avait pas grand tort. » Vous n'êtes pas juge, je suppose, des torts de votre frère envers votre gouvernante, dit la comtesse d'un ton sec. Ce que je veux, c'est que pareille circonstance ne se présente plus. Un enfant qu'on soutient dans ses impertinences ne peut que devenir de plus en plus acariâtre. Je serai obligé de couper court à ces soirées si votre frère y apprend à mépriser Miss Junior, que j'estime, et que je considère comme une personne tout à fait distinguée. Bien, maman, répondit Zina, qui sentit le soufflet sur la joue de Mademoiselle Beauchet. Lisa, muette, les yeux pleins de larmes, ne disait rien. « Vous m'avez entendu, Vasilissa ?» dit la comtesse en se tournant vers elle. « Oui, ma tante. Tâchez d'en faire votre profit, alors. Je voulais vous dire aussi, Vasilissa, que vous voilà présentée dans le monde. De temps à autre, je vous ferai venir près de moi quand j'aurai des visiteurs. Cela vous formera. Et moi, maman ?» dit Zina, qui prévoyait d'ennuyeuses soirées en l'absence de son amie. « Vous resterez chez vous, ma fille, jusqu'à ce que je vous fasse appeler, » dit la comtesse d'un ton sec. « Allez étudier, mademoiselle, vous avez encore beaucoup à apprendre. » Les deux cousines sortirent le cœur gros et prirent, comme d'habitude, le chemin le plus long pour retourner chez elles. « Je ne sais pas ce qu'a maman, » dit Zina en refoulant de son poing fermé les larmes de ses yeux. « On dirait que tous les jours elle devient moins bonne. As-tu remarqué qu'elle n'a pas nommé mademoiselle Beauchet ?» « C'est à son adresse le paquet que nous avons reçu. Nous ne lui en dirons rien, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Lisa, « il ne faut pas lui faire de peine. C'est Justine qui nous a vendus. Je la déteste, dit Zina d'un ton convaincu.
Ce monsieur d'hier, reprit-elle, c'est un promis pour toi, tu sais. Ce qui m'étonne, c'est que maman ne t'ait rien dit.
Il faut bien m'accoutumer peu à peu, répliqua Lisa d'un ton ironique qui ne lui était pas habituel.
Zina la regarda un peu surprise.
Il ne te plaît pas ? Lui dit-elle tout bas. Il me fait horreur avec sa voix mielleuse et ses grands saluts.
Mais si maman veut que tu l'épouses,
je ne l'épouserai pas, dit Vasilissa qui rougit soudain et dont les yeux bleus lancèrent un éclair.
C'est bien. Tu es un vieux brave, toi, une vieille moustache grise,
s'écria Zina en sautant au cou de sa cousine.
Chut,
fit-elle en posant un doigt sur ses lèvres. Et de l'air le plus posé, elle ouvrit la porte de sa chambre.
5 jours après cette scène, M. Tchoulesov se fit annoncer chez la comtesse vers 8 heures du soir.
À ce nom, Zina, dans la salle d'études, regarda Lisa qui pâlit.
Dimitri fit sournoisement de l'œil le tour de tous les visages et retournant les cartes de sa patience.
10 de cœur, valet de cœur, dame de cœur, roi de cœur, mariage.
Madame la comtesse prie Mademoiselle Vasilissa de passer chez elle, dit un domestique sur le seuil.
Vasilissa se leva lentement, déposa sa broderie et se dirigea vers la porte.
Tous les yeux la saluaient avec des expressions bien diverses. Seule, Justine piquait régulièrement son aiguille dans la grosse toile de ses chemises de pauvre.
Arrivée sur le seuil, la jeune fille tourna la tête avant de disparaître et vit tous ses yeux qui la regardaient.
Ceux de Zina, pleins d'angoisse, lui firent peine. Elle sourit, d'un faible sourire, et entra chez sa tante.
Voici M. Tchoulesov, qui désire connaître notre campagne de Koumiassine, ma chère Lisa,
dit la comtesse avec cette grâce incomparable qu'elle apportait, quand il lui plaisait, aux relations de la vie sociale.
Vous qui aimez, je crois, ce lieu champêtre, plus que nous tous ensemble, décrivez-nous-en les beautés.
Elle indiquait à Vasilissa une place sur le canapé. La jeune fille s'assit, pour la première fois de sa vie, à cette place d'honneur. Elle gardait le silence.
Tchoulesov rompit la glace.
« Est-il vrai, mademoiselle, lui dit-il en français, d'une voix suave, que vous préfériez les champs à la ville ?»
Lisa, sous l'œil scrutateur de sa tante, murmura une courte réponse.
Tchoulesov avait beaucoup cultivé la langue française depuis l'époque de ses jeunes amours. Il s'était aperçu qu'au Sénat, un employé qui parle bien le français a tout espoir de se faire apprécier par ses chefs. Il employa les phrases les plus mélodieuses, les accents les plus persuasifs, pour induire Lisa en conversation. Mais il avait grand-peine à obtenir autre chose que des monosyllabes. La comtesse, croyant que c'était au respect qu'elle inspirait à sa pupille qu'était due cette timidité extraordinaire, sortit du boudoir et passa un moment dans la salle d'études. Pour la première fois de sa vie, Lisa se trouvait seule avec un inconnu. Les portes étaient ouvertes, les domestiques allaient et venaient dans les pièces voisines. Elle prit du courage et au moment où, pour la 20e fois, Tchoulesov lui adressait une question banale, elle leva sur lui ses grands yeux bleus, pleins de hauteur et de malice à la fois.
« Oui, monsieur, lui dit-elle, j'aime le monde. On y rencontre, il est vrai, des gens qui vous déplaisent, mais on en trouve aussi de fort sympathiques.
Puis-je espérer, mademoiselle, dit Tchoulesov en se penchant d'un air tout à fait tendre, que vous m'encontrez au nombre de ces derniers ?»«
Je n'en sais rien, monsieur, répondit froidement Vasilissa en se reculant un peu. J'ai toujours entendu dire que les gens sympathiques étaient délicats, discrets et scrupuleux. Je n'ai pas encore l'honneur de vous connaître.
En un mot, pour vous plaire, dit Tchoulesov un peu piqué, il faut faire ses preuves.
Je ne sais pas, monsieur, s'il est question de me plaire à moi. Mais il me semble que pour plaire à qui que ce soit, il faut faire en effet ses preuves. Un chien même n'accorde sa confiance qu'à celui qui l'a mérité.
Elle a de l'esprit, pensa Tchoulesov. C'est une conquête à faire et non pas seulement une petite fille à épouser. Eh bien, tant mieux, ce ne sera que plus amusant.
Il se remit à marivauder, mais la comtesse entra et Lisa redevint muette.
Au bout d'une demi-heure, Lisa fut renvoyée dans ses pénates.
Elle n'est pas dégourdie encore, dit la comtesse à Tchoulesov. Elle est très jeune et ne sait guère causer qu'avec des jeunes filles de son âge.
Je vous demande pardon, madame, dit Tchoulesov avec une légère nuance de fatuité. Pendant le court instant que nous sommes restés seuls, mademoiselle Vasilissa fait preuve de beaucoup d'esprit et même de sagacité.
Vraiment.
C'est alors que ma présence l'effarouche,
Eh bien, cher monsieur, venez dîner lundi. Vous aurez l'occasion de faire votre cour à ma nièce. Je ne lui parlerai pas de vos intentions d'ici là. C'est à vous de vous faire apprécier. »
Tchoulézov, ravi, prit congé de la comtesse et retourna chez lui dans des intentions tout à fait conquérantes.
Lissa, de son côté, en rentrant dans la salle d'études, fut accueillie par ce silence plein de questions muettes qui accompagne presque toujours les situations embarrassantes. Elle revint s'asseoir à sa place d'un pas léger et sans souci.
« Tiens, » dit-elle, « Dimitri t'allait se coucher. »«
Il est 9 heures passées, mademoiselle, » dit Justine à demi-voix. « Le temps vous paraît court aujourd'hui. »
« Il me paraît long, au contraire, mademoiselle Justine. J'allais vous demander si mon pauvre cousin avait encore eu le malheur de vous déplaire, pour qu'on l'ait envoyé au lit avant l'heure. »
Mademoiselle Beauchère réprima un sourire. Miss Junior prit un air plus morose que jamais. Quant à Justine, décidée à ne pas comprendre, elle étira sur la table sa vilaine chemise de toile de chambre, de l'air placide et satisfait d'une jeune mère qui contemple sa layette. La séance fut bientôt levée. Quand les deux cousines furent couchées,
« Eh bien, » dit Zina tout bas, « ton promis te plaît-il davantage ?»«
Sois tranquille, je lui ai donné sur le nez. S'il y revient, c'est qu'il n'aura pas de cœur. »
Zina bondit de joie dans son lit.
« Mon Dieu, mademoiselle, » dit Miss Junior de son paravent, « est-ce que vous n'avez pas assez de la journée pour gambader, bavarder, que vous parlez toute la nuit ?»«
Nous, parler, Miss Junior, vous rêvez ?»
dit Zina d'une voix paresseuse. « Vous m'avez réveillée, je dormais déjà. » « Je vais avoir bien de la peine à me rendormir. »